Pouvoir avancer dans ces dimanches de carême, peut-être serait-il bon, même pour moi, mais pour vous aussi, de se remémorer où en sommes-nous à la quatrième étape, dans le premier dimanche de carême, avec la référence au déluge et à Noé. Nous discernions dans le plan de Dieu que la conduite de Dieu notre Père depuis les origines n'est pas l'idée de punir les hommes pour leurs péchés, mais de les guérir, de les délivrer et de les sauver. Et ainsi on se rappelle comment l'eau du déluge, un baptême commence dans quelques minutes, l'eau du baptême se réfère à l'eau du déluge. Elle n'est pas là pour noyer l'enfant que l'on baptise, elle est là pour le faire passer par la mort et la résurrection du Christ, et elle est un signe du salut. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui punit d'abord, c'est d'abord quelqu'un qui nous corrige, qui nous élève et qui nous fait grandir. Dans le deuxième dimanche, nous apprenions qu'avec Jésus, que l'épreuve, notamment pour Jésus du calvaire, était une épreuve qui était là pour le valoriser, et non pas non plus pour le punir. Le Christ montre les péchés du monde, mais c'est pour que nous sortions, évidemment, du péché. Et on lisait dans l'Épître aux Hébreux que c'est en vue de la joie qui lui était promise que Jésus avait affronté l'épreuve du calvaire et était maintenant assis à la droite de Dieu le Père dans la lumière éternelle. Et que les épreuves que nous connaissons dans notre existence et dans la vie du monde sont là pour nous corriger, sont là aussi pour nous valoriser, pour nous qualifier, pour être à la hauteur de notre mission. Elles sont donc temporaires et il faut voir où elles nous mènent, à condition, et nous le reverrons aujourd'hui, de partager le point de vue de Dieu lui-même. Dans le troisième dimanche dernier, nous étions invités à corriger deux signes de l'Alliance que Dieu met à notre disposition. Le signe des lois, la loi de Dieu, mais aussi la loi civile, qui est à prendre avec intelligence et surtout à ne jamais déconnecter de Dieu qui donne cette loi. Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte et ensuite lui révèle la loi pour bien vivre de cette liberté. Mais la loi de Dieu fait appel à notre discernement, à notre consentement, et obéir à la loi de Dieu, ce n'est pas simplement faire la volonté de quelqu'un d'autre, c'est comprendre que Dieu vient ici être au fondement de notre responsabilité et de notre dignité. Dieu veut des enfants qui grandissent et qui comprennent ce qu'ils font. L'autre signe, c'était le signe du temple, où là encore, on n'est pas là pour acheter Dieu, pour le corrompre, non, on est là pour à la fois honorer Dieu, tout en honorant le frère qui est à côté de nous. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont l'unique et le même commandement qui résume l'ensemble de la loi, et ça se réalise d'abord dans l'enceinte du sanctuaire. En ce quatrième dimanche de carême, dimanche de l'étaré, comme on l'appelle, donc « Réjouis-toi, Jérusalem », ce n'est pas une pause, c'est une étape importante à mi-parcours. Nous sommes invités à faire un bon usage, là encore, des signes que Dieu nous donne, et en particulier de bien associer la dénonciation de ce qui va mal avec la guérison, l'ouverture d'un chemin que Dieu nous offre. Et comme ouverture de cette méditation, je voudrais reprendre une partie de ce que le conférencier de demain à Saint-Germain-l'Auxerrois pour Notre-Dame, donc les conférences de carême de Notre-Dame, qui demain va porter sur l'œuvre de Bernanos au plan sacramentel. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Après avoir vu la semaine dernière Charles Péguy, nous avons, et je cite son nom parce qu'il m'a été d'une grande aide et donc il peut tous nous aider, et je cite tout simplement une petite partie de son interview qu'il donne à Paris Notre-Dame pour préparer sa conférence de demain. Donc si vous avez accès au petit journal diocésain Paris Notre-Dame, vous avez cette page magnifique. Je vous lis ce que j'ai trouvé de plus important et qui éclaire très lumineusement les lectures de ce quatrième dimanche de Carême. Georges Bernanos, donc grand auteur du XXe siècle, nous apprend à nous méfier de nos préjugés. Les personnages qu'il met en scène dans son œuvre sont toujours des personnages ambivalents et ça leur confère une épaisseur et une force tout à fait particulières. Il n'y a pas que des gens bien, ce sont des gens tout à fait ordinaires, comme nous le sommes, qui sont affrontés à des situations qui sont difficiles et ils ne réussissent pas par eux-mêmes et du premier coup. Ainsi, les héros de Bernanos ne font pas forcément tout de suite ce qui est bien et même ils se trompent. Le lecteur, vous et moi, est amené à dépasser son premier jugement, à s'intéresser à un personnage qui peut être décevant, mais pour se rendre compte qu'il nous ressemble et qu'il avance. Du coup, c'est un regard de compassion qui s'adresse à nous. Et au fond, Bernanos nous partage une certitude, vraiment en tant que chrétien, on ne peut considérer chaque personne et chaque situation avec espérance que si on adopte le point de vue de Dieu lui-même. Là où nous voyons des situations inextricables, Dieu nous ouvre des chemins de vie. Et Bernanos nous conduit à nous dessaisir de notre manière habituelle de considérer les humains et le monde pour nous habituer à songer que Dieu, certainement, voit autrement. Tel est le travail du chrétien et aussi du lecteur de Bernanos pour garder cette espérance vive. Le bien surgit toujours de manière impromptue et quasiment systématiquement là où on ne l'attendait pas. Dieu est toujours celui que l'on n'attendait pas et la grâce passe par des canaux tout à fait inattendus. Et il conclut, c'est toute la narration de la Bible. Et de fait, il me semble que c'est une clé parfaite. J'avoue que depuis le début de la semaine, depuis lundi matin, je cherchais la clé pour les lectures de dimanche prochain. J'avais imaginé plusieurs solutions plus ou moins convenables. Mais quand j'ai lu ce que je viens de vous lire, je me suis dit, ça y est, voilà quelqu'un qui a trouvé cette interprétation, qui la publie, heureusement sur les canaux de notre diocèse, à partir et à propos de Georges Bernanos, mais peut-être en fonction de ses lectures dominicales, et je voudrais les appliquer précisément à notre lectionnaire. Alors, on va le prendre peut-être en commençant par l'Évangile, parce que c'est un sujet qui est difficile, puisque c'est dans Saint Jean, au chapitre 3e, après l'entretien avec Nicodème, et nous avons une révélation du plan de salut de Dieu qui sauve en Jésus-Christ, qui passe par bon nombre de signes qui ne sont pas faciles à analyser. Ils sont remplis de paradoxes. Et le premier paradoxe que nous avons dans le premier signe, c'est quand Jésus fait allusion à Moïse qui a dû dresser un serpent de bronze dans le désert, c'est dans le livre des Nombres, et au chapitre 20e, et il fallait regarder avec foi ce serpent de bronze pour être guéri de la morsure brûlante de serpent venimeux dans le désert qui venait accabler la marche d'Israël vers la terre promise. Et Jésus enseigne à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze, de même faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà Jésus qui est comparé à un serpent de bronze. Voyez la difficulté que Jésus soit comparé à un berger, à de la lumière, à une porte qui s'ouvre, à un pain qui est vivant, on comprend très bien. Il y a une adaptation à ce qu'est Jésus à travers des signes qui sont positifs. Oui, mais le serpent, ce n'est pas positif. En tout cas, le serpent, il est au moins ambivalent. En Inde, le Naka est une semi-divinité. Chez les Perses, il est un esprit démoniaque. Mais si vous allez chez le pharmacien, vous voyez un serpent qui est enroulé autour d'une coupe. Et si vous appelez le SOS médecin, sur le macaron qu'il y a sur sa voiture, il y a un serpent qui est entouré, qui entoure un bâton. Et donc le serpent devient le symbole de celui qui guérit, de celui qui apporte le bien-être. Et nous sommes ainsi dans toutes sortes de situations où on se demande, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Tout simplement, par exemple, le signe de la croix. Le signe de la croix, dont nous sommes, je pense, très familiers, nous dit des choses qui sont assez contradictoires. Dans un premier temps, il faut oser affronter la figure du Christ au calvaire. Le Christ au calvaire, l'innocent qui a été condamné à mort et qui est traité de manière aussi brutale, nous révèle, entre guillemets tout simplement, les méfaits de la violence et en général du péché. Comment on peut traiter quelqu'un de manière parfaitement injuste, et tous les grands théologiens depuis 2000 ans se sont plus à faire comme une sorte de catalogue de tous les péchés qui étaient responsables de la mort de Jésus. Ça peut être la violence, ça peut être la jalousie, enfin, tous les péchés capitaux, voyez-vous, sont présents et aboutissent à cette mise sur la croix de celui qui pourtant n'a jamais péché. Donc ça donne un état du monde qui est épouvantable. De l'autre côté, il y a un autre regard qui doit être porté, on a l'impression de dire en même temps, en tout cas dans un deuxième temps, mais il lui est lié au premier. Jésus sur la croix renverse la violence des péchés et des pécheurs qui s'acharnent contre lui, et la croix devient un signe de pardon, devient un signe de paix. Comment arriver à traverser l'épreuve de la croix pour arriver à recevoir un signe de pardon et de paix? Et il y a un chemin qui est peut-être long à opérer pour arriver à discerner les différentes facettes de ce qui se passe. Et il en est ainsi de bien des signes que Dieu nous accorde. On pourrait remonter bien sûr plus loin. Prenons un exemple qui me semble tout à fait exemplaire, qui était lié à la loi qu'on étudiait la semaine dernière, dimanche dernier, lorsque Dieu dit dans le jardin de la Genèse à Adam et Ève, « Certainement, vous mangerez de tous les arbres du jardin. » Certainement, de tous les arbres. Et puis, dans la ligne suivante, il y en a un, « Vous n'en mangerez pas. » Et donc, est-ce que la loi interviendrait pour simplement annuler la promesse qui porte sur la plénitude, sur le tout ? Ce n'est pas possible. Ou alors, on fait une caricature de Dieu, et ça s'appelle une idole. Dans la Bible, un veau d'or. Non, il faut arriver à comprendre comment un commandement n'annule pas la promesse de vivre en plénitude, mais donne plutôt d'ordonner les éléments de notre vie dans un sens, dans une pédagogie qui va nous conduire à cette plénitude, mais ne va pas l'entamer. Ce n'est pas que Dieu prendrait un autre visage que celui qui est la source de la vie et qui la partage avec tous les humains qu'il crée à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce qui permet de prendre la loi et les commandements du bon côté et de les orienter et de les vivre de manière fructueuse. Mais il faut bien avouer que dans un premier temps, la logique humaine, les calculs que nous faisons ne sont pas suffisants pour voir les choses du bon côté. Et on se rappelle l'invitation de Pascal, dont nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance, qui nous disait il y a l'esprit de géométrie, 2 et 2 font 4, mais il y a surtout l'esprit de finesse. C'est les bons pour les sœurs, madame. C'est les bons pour les sœurs, vous voulez pas? Bon, ça ne fait rien. Madame est indépendante. Ben oui. Alors, revenons à nos moutons. L'esprit de finesse est vraiment l'esprit que Dieu nous demande d'adopter, ce qui nous oblige à bien réfléchir à tout ce que Dieu veut faire à notre endroit. Alors, par exemple, dans l'évangile toujours de ce dimanche, ce n'est pas toujours si facile, Dieu dit par exemple, Jésus dit au nom de Dieu, « Le Père m'a envoyé, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Alors, qu'est-ce que veut dire « juger le monde » ? Alors, juger le monde, quand nous jugeons, qu'est-ce que nous faisons ? Beaucoup de gens, d'ailleurs, demandent pardon, viennent se confesser d'avoir jugé des gens. Alors, le jugement est mauvais lorsqu'il correspond à l'idée de condamner. On m'a dit « quelqu'un a fait ça », je le condamne en disant « c'est un mauvais, il doit disparaître ». Non. Mais n'empêche que juger, en fait, ça peut vouloir dire, et ça doit vouloir dire, quand c'est nous qui portons un jugement, ça veut dire portons une évaluation. Alors, doucement, d'abord, dans un premier temps, avoir un jugement, ce n'est pas d'abord un avocat ou un tribunal, c'est une estimation que nous avons. Nous voyons quelqu'un qui vole quelque chose à un étalage et nous jugeons que cet acte est mauvais. Ben, on n'est pas pour autant juge professionnel. Ça veut dire avoir des idées et estimer que quelque chose est bon ou quelque chose est mauvais. Mais voyez, le dire sur quelque chose, sur un acte, ça n'est pas le dire sur la personne. Je ne dis pas forcément que le voleur est un monstre dont il faut se débarrasser. Peut-être est-ce quelqu'un qui a faim et qui a besoin de manger cette pomme. Jean Valjean dans Les Misérables et qui vole du pain pour le donner à des enfants. Ça ne mérite pas le bagne. Alors, les juges humains ont la responsabilité de porter des jugements, c'est-à-dire de déclarer officiellement au plan, au niveau et au nom de l'autorité que tel acte est coupable ou que tel acte est innocent. Il ne peut pas faire plus. Ça, ce sont les juges de la terre. Maintenant, quand on dit que Dieu est un juge, et vous voyez, c'est très important, ce sont ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire que nous appliquons à Dieu des verbes, des activités, des qualités que nous connaissons au plan humain. Mais quand on dit que ça appartient à Dieu, il faut apporter un peu de finesse et un peu de jugement. Car lorsque Dieu juge le monde, ce qui fait partie de la révélation qu'il apporte et des traditions sur Dieu, il ne se contente pas de dire « ça c'est bien » ou « ça c'est mal ». Quand Dieu juge le monde, il apporte la justice à ce monde. Et celui qui se trouve jugé coupable d'un acte qu'il a commis devant Dieu ne se voit pas, d'après l'Évangile, condamné, mais il se voit d'abord recevant une justice qui vient de Dieu et qui va servir à le rendre juste. Et c'est l'apôtre Paul qui a forgé cette expression de la justification, qui correspond à ce que nous appelons dans la vie spirituelle la sanctification. La sanctification, c'est le progrès qui nous permet de sortir d'une situation mauvaise et de nous engager, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, de nous engager progressivement sur un chemin de conversion et de justification, c'est-à-dire de passer de l'injustice, du péché de la violence, à la justice, c'est-à-dire à l'honnêteté, et vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de notre prochain. Alors, les péchés ne sont pas de manière immédiate, dans le temps de notre existence, ne reçoivent pas le châtiment qu'ils méritent. Dieu n'est pas quelqu'un donc qui punit. Là, il ne faut pas confondre le temps et la fin des temps. À la fin des temps, il y aura bien un jugement, le jugement dernier. Mais dans la suite des temps, c'est-à-dire dans l'histoire où nous sommes, ben, nous voyons bien d'ailleurs que les pécheurs continuent souvent d'opérer leurs méfaits. Dieu, dans sa patience, leur donne justement la grâce nécessaire pour se convertir et pour amender leur conduite. Ils le font ou ils ne le font pas. Mais nous recevons, nous, la possibilité dans la foi de vivre cette conversion. Donc il faut bien avoir cet esprit, donc, comme on dit, de finesse, qui permet à la fois de comprendre ce qui se passe dans le cours de notre histoire et ce qui se passera à la fin des temps.